here who don't speak French, don't worry. God speaks all the languages, and he will bless you, even if you don't understand everything that goes on during the service. But we are so honored that you're here with us this morning. Thank you for being here. Moi, j'aime Noël. Excusez-moi. Malgré ce que tu as dit tout à l'heure, moi, j'adore Noël. Et dès que je vois la couronne de Noël dans l'église, je dis, ça y est, Noël est ici. Et ça me fait vraiment plaisir. Ma femme peut vous dire que, vous savez, est-ce que vous avez, qui parmi vous est allé à Euro Disney? Levez la main. Euro Disney, OK. Est-ce que vous avez remarqué que, quel que soit l'âge de la personne qui rentre dans l'Euro Disney, même les gens de mon âge, quand ils rentrent, ils deviennent des enfants. Ils courent à droite et à gauche. Ils veulent être premier dans les files parce que être là-bas, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et être dans la saison de l'Avent, c'est pareil. Vous savez, l'Avent est un mot qui vient du latin, qui veut dire qu'il est venu, il est arrivé. C'est cette saison d'attente. Quand nous nous préparons pour fêter de nouveau l'arrivée de Jésus dans le monde. Et cette couronne de Noël, moi j'adore. Hein? Merci Sylvie, notre sœur qui a préparé ça. Et vous allez remarquer, il y a 4 bougies. Donc, une bougie pour chaque dimanche de Noël. Et ces bougies, ils ont un certain sens, ils ont un certain message à partager avec nous. Et ces bougies représentent l'espérance, la paix, la joie, l'amour. Et finalement, le jour de Noël, parfois, Sylvie, vous savez, il y a encore une 5e bougie qu'on peut mettre là-dedans. Et on allume le jour de Noël qui symbolise l'arrivée de Jésus. Et donc, pendant ces 4 dimanches, en attendant et en allant jusqu'à Noël, nous allons parler justement de ces vérités qui représente ces bougies pour nous. Et aujourd'hui, c'est l'espérance, l'espérance. Nicolas m'a fait remarquer, Nicolas m'a dit aussi de ne pas parler trop longtemps ce matin parce qu'on a autre chose à faire, mais lui, il est parti, donc je fais comme je veux. Ce matin, nous allons parler de l'espérance et ça m'a fait penser à l'histoire du petit garçon optimiste. Vous connaissez cette histoire? Il y avait un enfant, un garçon, et il était optimiste, mais dans toutes les circonstances. Il est toujours optimiste. Et il vivait en campagne avec ses parents qui étaient très modestes. Et quelques mois avant un certain Noël, il a commencé à demander à ses parents s'il ne pouvait pas, pour Noël, avoir un poney. Avoir un poney. Maman et papa ont dit que ce n'était pas possible. Mais le garçon optimiste, il a prié tous les soirs et il attendait chaque jour l'arrivée de ce poney le jour de Noël. Mais étant pauvre quand même, ses parents ne pouvaient pas lui donner qu'un petit fer à cheval qu'ils ont mis dans son soulier. Et le jour de Noël, le garçon se lève, il court dans le salon, il regarde dans le soulier, et là, il voit le fer à cheval. Il était tellement content. Il était tellement content de l'avoir. Et ses parents étaient dans l'étonnement parce qu'il n'y avait pas de poney. Mais le garçon, il était tout souriant. Il a dit, « Maman, papa, c'est fantastique, j'ai eu mon poney. » Mais il s'est échappé, il n'a laissé que son fer à cheval là. Mais on va le chercher. Noël, c'est un temps d'espérance. C'est un temps d'espoir. Et même si ces deux mots ne veulent pas dire exactement la même chose, je vais faire en sorte que cela parle quand même de cette espérance que nous avons dans la parole de Dieu. Vous savez, si vous êtes de ceux qui lisent la Bible de temps en temps, pourquoi pas tous les jours, vous savez que ce mot espérance, ça se trouve partout dans la parole de Dieu. Partout. Et dans l'Ancien Testament, il y a deux mots différents qui parlent de l'espérance. Mais ces deux mots veulent dire à peu près la même chose, c'est-à-dire d'attendre avec anticipation et avec certitude que quelque chose de bien va arriver. Dans le livre des Psaumes, par exemple, ce mot « espérance » est souligné 40 fois. Et dans le Psaume 130, par exemple, Dieu exhorte Israël d'espérer dans celui qui va les livrer, les délivrer de leurs fautes. Dans les prophètes, on voit le mot espérance encore et encore. Cette espérance qui est fondée, pas sur les circonstances, mais fondée sur la personne de Dieu même. Ce n'est pas l'optimisme. Hein? L'optimisme, c'est autre chose. L'optimisme, c'est quelqu'un qui dit, « Ah oui, ça, souriez, tout ira bien, malgré tout, tout ira bien. » Mais l'espérance biblique, c'est une confiance inébranlable en Dieu lui-même. Le prophète Osée disait, par exemple, que Dieu peut transformer une vallée de troubles en une porte d'espérance. Et dans le Nouveau Testament, oh, qu'est-ce que nous avons d'espérance dans le Nouveau Testament? Dans la mort, mais surtout la résurrection de Jésus, qui peut tout changer. Parmi les passages de la Bible les plus aimés, il y a 1 Corinthiens chapitre 13, qui parle de l'amour, qui parle de la foi. Mais ce chapitre parle aussi de l'espérance. Vous savez, dans l'Église, les pasteurs, on aime bien parler de la foi. On aime bien parler de l'amour. Mais quand est-ce la dernière fois que vous avez entendu une prédication basée sur l'espérance? Peut-être pas très souvent. Je me suis même posé la question, est-ce que j'ai jamais fait une prédication sur l'espérance? Et j'en trouvais pas dans mes archives. Mais l'espérance, c'est important. C'est très important. On peut vivre sans beaucoup de choses, mais on ne peut pas vivre sans espérance. Vous savez, on peut vivre sans amour. C'est possible. Il y a des gens égoïstes qui n'aiment personne. Ils s'en fichent. Il y a des gens qui ne sont pas aimés, ils arrivent à vivre quand même. Mais vivre sans espérance, sans espoir, ça c'est difficile. Je dirais même impossible. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, ceci. En ce temps-là, vous étiez loin de Christ. Vous étiez étrangers. N'appartenez pas au peuple choisi par Dieu. Vous vivez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Quelle triste situation de vivre sans espérance et sans Dieu. On raconte qu'un jour, le diable a fait un vide-grenier. Le vide-grenier du diable. Il vendait toutes sortes de choses, des outils de son métier pour éloigner des gens de Dieu. Et ces outils étaient là sur une table, une grande table, avec les prix affichés. Il y avait l'orgueil, il y avait le manque de pardon, il y avait la haine, la convoitise, il y avait toutes sortes d'armes du diable qui étaient là sur la table. Mais le plus cher de toutes ces armes était aussi le plus usé et coûtait le plus. Ça coûtait le triple de toutes les autres armes du diable. Et quand on lui demandait pourquoi, le diable il a répondu, « Si les autres armes ne marchent pas, je peux toujours faire tomber les gens avec celle-là. » Et c'était quoi? Le désespoir. Bien sûr, c'est une histoire imaginaire, mais je l'aime bien parce que ça souligne une vérité spirituelle pour nous. Si nous ne pensons pas que le désespoir ou le manque d'espoir fait partie de l'arsenal de Satan, nous nous trompons. Souvent, nous pensons, quand nous disons le mot péché, nous pensons à des choses comme le meurtre, le vol, etc. Mais savez-vous que le but de Satan, c'est de nous éloigner de Dieu. Et parmi ses armes préférées, plus efficaces, c'est le désespoir. L'écrivain C.S. Lewis disait que on pouvait mettre toutes les tentations de Satan dans deux catégories, l'orgueil et le désespoir. Nous avons besoin de l'espoir, de l'espérance. Mais c'est quoi exactement l'espérance? Selon le petit Larousse, qui n'est pas très petit, l'espoir, c'est le fait d'espérer ou d'attendre d'une façon avec beaucoup de confiance. Mais la deuxième définition, c'est une personne en qui on espère. Vous savez, quand votre équipe de football signe le jeune dynamique, on dit souvent que c'est l'espoir de l'équipe, n'est-ce pas? Mais pour nous, chrétiens, nous aussi, nous avons l'espoir en une personne. Notre espoir, c'est en qui? Ben, c'est en Jésus, bien sûr. Parce qu'il est venu pour nous ouvrir le chemin de son Père. Je n'avais pas ça dans mes idées, mais je vais vous la raconter quand même. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au Togo pour animer une école biblique pour 25 ou 30 pasteurs qui n'avaient pas eu l'occasion de faire des études. Et à un moment donné, je disais que, frère, si je vous dis qu'on va voir Monsieur le Président à Lomé, vous allez me regarder avec de grands yeux en disant, mais ce n'est pas possible. Vous ne connaissez pas le président de notre pays, vous ne pouvez pas aller le voir comme ça. Mais si je réponds, ah ben, mais moi, je connais son fils et moi, nous sommes des potes, nous sommes des amis de longue date. Et donc, allons-y à Lomé et nous allons au palais du président et nous allons rentrer dans le palais et nous allons voir mon ami et après il va nous présenter à son papa. Eh bien là, peut-être vous irez, n'est-ce pas? C'est exactement comme ça pour nous. Notre espérance est en celui qui est le Fils de Dieu et qui peut nous amener jusqu'à voir et à vivre avec son Père. N'est-ce pas fantastique? Oh là là! Le monde a besoin de l'espérance. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez qu'à regarder les infos. Chômage, les prix qui grimpent, les guerres sans fin, les incendies, les inondations. Oh, c'est fatigant. On a besoin d'un peu d'espérance aujourd'hui. On a besoin de quelques bonnes nouvelles. Et notre bonne nouvelle se trouve dans Romains 8, 24 et 25, qui nous dit, en effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais nous espérons ce que nous ne voyons pas. Nous l'attendons avec persévérance. L'espoir devient alors quelque chose qui peut vaincre le mal. Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre espérance? Je vous dis que cette bougie, c'est la lumière de l'espérance. Bah oui, c'est fantastique. On a la lumière de l'espérance, mais on fait quoi avec? Il faut mettre en action notre espérance. Il faut vivre notre espérance. Connaissez-vous l'histoire vraie de Viktor Frankl? Il était un psychiatre qui a été condamné à Auschwitz par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, il a remarqué la grande différence entre ceux qui ont survécu leur temps dans ce camp de concentration et ceux qui sont morts. Et quelle était la différence? Ce n'était pas leur force physique ni la maladie. C'était plutôt l'espoir, l'espérance qui faisait la différence entre ceux qui ont pu survivre ce camp de concentration et ceux qui sont morts. Ceux qui ont choisi de croire qu'ils n'étaient pas abandonnés de Dieu, ces gens-là ont pu survivre. Ça, c'est mettre notre espérance en action, de la vivre tous les jours. En Hébreu, chapitre 11, verset 1, nous lisons: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour le reste de ce chapitre 11, il y a la liste des gens qui ont mis leur espérance en Dieu. Allez regarder cet après-midi. C'est enrichissant. Comment est-ce que nous pouvons mettre notre espérance en action? En quoi est-ce que nous pouvons vivre en ce début de saison de l'Avent? Eh bien, moi, je pense à un petit bébé. Le bébé est toujours là? Non, pas qui. Je n'étais pas loin dimanche dernier, et pendant le moment de louange, le bébé ne cessait pas de louer le Seigneur aussi. Vous savez, un nouveau-né, c'est l'illustration même de l'espérance. Pourquoi? Parce que les petits bébés, il faut de la patience, il faut du temps, il faut beaucoup de soins. Mais c'est dans cette espérance d'une vie nouvelle qui va grandir, qui va prendre forme et qui va nous bénir, que Jésus est venu dans le monde comme un petit bébé, mais l'espérance du monde, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça fantastique. Vous savez, les enfants de Dieu dans la Bible, ils ont dû attendre des centaines, des milliers d'années entre les premières prophéties de Jésus et son arrivée dans le monde. Il en est du même avec les enfants, les nouveau-nés, n'est-ce pas? Il faut attendre. Il faut attendre. Si vous avez des petits-enfants, il faut attendre. Il faut leur dire, attendre, Noël va arriver. Hein? Il y aura peut-être des cadeaux si vous êtes sages. C'est ce que mes parents me disaient toujours. Mais heureusement, avec Dieu, notre espérance ne dépend pas de notre comportement, parce que Dieu nous aime malgré tout. Et il nous gâte avec son Fils Jésus qui peut nous amener auprès de lui. Et ce que nous allons fêter le 25, c'est l'arrivée de Jésus dans le monde pour nous sauver. Ça vaut la peine de la préparer, de l'attendre, d'y penser. Moi, j'adore ce verset dans Ésaïe 40, 31 qui dit: Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ils ne se laissent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Écoutez, à mon âge, quand je marche, je me fatigue. Hein? Quand ma fille m'a essayé de faire monter au sommet de Puy-de-Dôme, c'était loin. Ça monte. J'étais fatigué. Et ce qu'il faut souligner dans ce verset, c'est l'espérance. Notre espérance en Dieu. Parce que lui, il ne flanche pas. Il ne se fatigue pas. Donc, dans ce début d'année chrétienne, qui commence avec Noël, dans ce début de l'Avent et dans cette saison d'attente, nous attendons avec espérance, pas pour des poneys, j'espère. Vous savez, l'un des avantages d'être aussi vieux que moi, c'est que non seulement j'ai pas besoin de grand-chose, mais même j'en ai pas envie de grand-chose, sauf de vivre dans la joie de Dieu. Moi, j'attends avec impatience, mais avec certitude, parce que j'ai l'espérance que Jésus est déjà venu dans ce monde et on va le fêter d'ici quelque temps, mais qu'il va revenir pour nous prendre sa famille, pour nous amener dans la maison de son Père. N'est-ce pas fantastique? Ah, ça, c'est un cadeau de Noël que j'attends avec impatience. Prions. Seigneur, merci pour